On est prêt?
Oui, mon lieutenant.
Alors, à l'attaque!
Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Tactique. Ce mois-ci, on voulait parler méthanisation. Il y a 2 mois, avec Sylviane, on avait assisté à une conférence sur la méthanisation à Puisieux. Et on avait pris des bandes son à l'époque sur les questions que se posaient les habitants et aussi sur certaines explications techniques. On les ajoutera au fur et à mesure de l'émission pour vous aiguiller un peu sur la méthanisation et sur le ressenti des personnes. On a appris récemment l'arrêt du méthaniseur de Bourgogne-Frêne et nous sommes dit que c'était le bon moment pour faire un point sur la méthanisation, surtout les projets de contestation qu'il y avait autour, savoir s'ils étaient fondés, savoir comment on pouvait faire et si c'était compliqué de lutter contre un méthaniseur. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Almagro. Or, si je me trompe pas, il est chercheur en biophysique à l'université et il est membre également du conseil scientifique pour une méthanisation raisonnée. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Bonjour Sylviane.
Bonjour Simon. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sylviane.
Alors, je tiens à préciser qu'on enregistre cette émission, on est début décembre, donc elle sera diffusée au début de l'année prochaine. Donc voilà, si certains chiffres ou faits ont changé depuis, il ne faudra pas nous en tenir rigueur. Hein. Autant pour commencer, j'ai appris l'arrêt du méthaniseur de Bourgogne-Frêne. Pourquoi a-t-on décidé son arrêt? Pourquoi le méthaniseur est à l'arrêt aujourd'hui?
Alors techniquement, et je vais rentrer un peu dans les détails du droit administratif, c'est pas un arrêt qui est prononcé. En fait, il y a 2 types de droits administratifs qui régissent, enfin même 3 ou 4 types de droits. Là, on va s'intéresser à 2. Il y a tout d'abord le droit d'exploiter, qui est le droit de produire. Et ensuite, le droit sur l'urbanisme, c'est-à-dire le droit de construire. Là, le droit d'exploiter n'est pas remis en cause par le dernier arrêté. C'est le droit de construire qui est touché. En fait, un permis initial est arrivé en 2019, un permis de construire. En 2020, il y a eu une modification très succincte. Et enfin, en 2022, comme les bâtiments ne coïncidaient pas exactement avec les plans initiaux, une demande de permis modificatif a été faite. Et cette demande de permis modificatif est le reflet de ce qui a été réellement construit. Donc, elle a été refusée, cette modification, ce qui ne remet pas en cause le droit initial, mais cette modification a été refusée pour un défaut de sécurité incendie. Alors, sur ce site de méthanisation-là, la quantité de gaz présente, s'il y avait explosion, ça équivaut à peu près à 24 tonnes de TNT, c'est à peu près un 400e d'Hiroshima, à 530 mètres des habitations. Donc un défaut de sécurité incendie sur ce genre d'exploitation, comme sur beaucoup de méthaniseurs d'ailleurs, c'est vraiment, il y a plusieurs risques qui se combinent. Il y a l'autocombustion avec certaines matières. Ensuite, il y a le risque de gaz qui génère non seulement de la chaleur, mais ensuite une onde de choc, qui fait qu'on ne peut absolument pas se priver d'une sécurité incendie tout à fait efficace, surtout que c'est disposé en zone agricole. Et en zone agricole, on n'a pas accès aux réseaux d'eau, par exemple, de la commune, qui en général sont trop faibles parce que c'est en zone agricole, elles ne sont pas assez équipées. Donc ces usines-là, elles ont besoin absolument d'être autonomes au niveau incendie. Et apparemment, ce n'était pas le cas.
Et oui, tu parles d'eau. Il me semble que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la méthanisation. Parce que moi, j'avais compris qu'il fallait quand même injecter un petit peu d'eau dans ce qui arrive dans le méthaniseur, entre autres pour des matières agricoles.
Alors, la méthanisation est un processus biologique qui est connu depuis plus de 100 ans. En fait, des archébactéries vont venir dégrader de la matière pour la transformer en gaz. Il y a grossièrement 3 types de gaz qui sont produits. Essentiellement du méthane, un peu moins de 60% du gaz produit, du CO2, et oui, la méthanisation produit du CO2, il en produit à peu près 30 à 40% du volume de gaz, et enfin d'autres gaz qui sont nocifs, comme l'hydrogène sulfuré, les oxydes de soufre, il peut y avoir des oxydes d'azote dans un second temps, Et ces gaz-là sont polluants, il faut absolument les traiter avant le rejet. Par contre, le CO2 qui est produit, hein, chaque fois qu'on fait 6 molécules de méthane, on fait à peu près 4 molécules de CO2, eux sont rejetés dans l'air directement, sans retraitement. Alors vous me parliez d'eau. En fait, il y a deux types de méthanisation. La méthanisation en voie liquide, donc c'est le système de yourte hein, qu'on peut voir, ça fait des dômes verts, où là, où en général, il y en a au moins deux, voire trois. En fait, il y a deux étapes. Une étape de digestion, donc il y a du liquide assez épais, qui vont permettre aux bactéries en milieu liquide de produire ces gaz. Alors, il faut absolument, sous ces dômes, qu'il n'y ait pas d'air. Il ne faut absolument pas d'oxygène. Il faut qu'on soit en milieu anaérobie, c'est-à-dire une absence quasi totale d'oxygène qui viendrait polluer la réaction. Donc, les gaz sont produits, sont récupérés par ces dômes. Ensuite, donc ça, c'est la voie liquide. La voie sèche, le principe, c'est de pulvériser un petit peu d'eau. Il y a un tapis roulant qui fait avancer la matière petit à petit. En gros, en 30 jours, en voie sèche, la réaction de méthanisation s'est passée. Donc, ces bactéries, elles ont besoin d'eau. Elles peuvent avoir besoin d'eau d'une manière plus ou moins raisonnée. C'est pour ça qu'on peut faire la voie sèche. La voie sèche exige le plus souvent de chauffer un petit peu plus, ce qui fait consommer un peu plus d'énergie. Donc, en général, le méthaniseur utilise le gaz qu'il produit pour se nourrir. Alors, le problème, c'est que le gaz qu'il produit, il y a deux étapes. Il y a ce qu'on appelle le biogaz. Ce biogaz est très peu épuré, donc il y a beaucoup de gaz polluants, et c'est ça qui est brûlé dans les chaudières, qui fait qu'elle va rejeter dans l'air une bonne partie de ce gaz qui n'a pas été purifié, donc avec beaucoup de déchets. Donc ça, c'est quelque chose qui nous interroge beaucoup. Et ensuite, après purification, ce gaz est soit... parce qu'il y a deux possibilités. On peut faire de l'électricité, soit on peut l'injecter. En général, quand il est purifié, on l'injecte dans le réseau de gaz pour qu'il soit ensuite utilisé par les gens, par les industries, pour être brûlé et produire de l'énergie. Alors le problème, c'est que ce biométhane, pour être brûlé après purification, il faut une chaudière récente. Donc toutes les chaudières un peu anciennes à gaz ne peuvent pas brûler ce biométhane dans les chaudières à la maison, par exemple.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il y a des conditions de pression et de température qui doivent être faites. Parce D'accord. que le propane, c'est plus facile à brûler, ou le butane, que le méthane.
Ok. Tu dis que le propane, il faut changer la chaudière pour brûler du biométhane. Mais est-ce qu'il faut changer aussi la chaudière pour les chaudières qui brûlent du gaz de ville actuellement, qui nous vient de Russie, de je ne sais où?
Alors, tout ce qui va être chaudière qui n'est pas assez récente, ça veut dire plus de 10 ans, à ma connaissance, elles ne peuvent pas brûler le méthane qui est rajouté. Mm-hmm. D'accord ? Il faut un système. Alors, je ne suis pas ingénieur du domaine, je ne peux pas vous dire, mais ce gaz-là doit bénéficier pour être utilisé comme combustible par les habitants, surtout. Alors, les chaudières industrielles, ça n'a rien à voir. Mais pour les habitants, il y a des conditions de pression, de température qui font que... Voilà.
Donc, il y aura des risques pour qu'une partie de la population soit obligée de changer de chaudière.
Alors, si 100% du gaz provenait uniquement des méthaniseurs, il faudrait absolument renouveler le parc de chaudières. Il ne vous a pas échappé que des lois passées il y a à peu près un an, non seulement interdisent dès 2024 l'installation des chaudières à gaz dans les bâtiments collectifs, et de 2028 dans les résidences individuelles.
2028, interdiction de chaudières à gaz dans les maisons.
Dans les maisons. Ça sera réservé aux industries.
Donc, il faut se convertir au tout électrique et...
C'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui a dit.
Oui, non, mais je sais bien. Non, mais ça veut dire que 2020... Alors, il faut changer de voiture pour passer aux voitures électriques. Il faut changer de chaudière pour passer aussi à l'électricité. Donc, il faut augmenter le parc nucléaire. Et la boucle est bouclée.
Alors, la macroéconomie autour des énergies est compliquée. Je ne la maîtrise pas. Mais une chose que je peux dire, de ce que je vois autour de la méthanisation, il faut bien comprendre que la méthanisation, pour l'instant, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, c'est 33 milliards d'euros d'argent qui ont été dépensés en subventions. 33 milliards d'euros, c'est, je crois, 7 centrales nucléaires, si j'ai entendu les tarifs du marché. Enfin, je n'ai pas trouvé de catalogue, mais voilà, c'est ce que j'ai entendu, 6 milliards d'euros à peu près. Ça fait beaucoup, parce qu'avec 33 milliards d'euros, moi, je pense qu'on aurait pu isoler beaucoup d'habitations, beaucoup d'infrastructures. Et je m'interroge toujours beaucoup de pourquoi tant d'argent. Parce qu'au final, cet argent-là, c'est des subventions. Et le but d'une subvention, c'est donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas. C'est pour promouvoir. Et là, qu'est-ce que je constate ? Je constate un prix du marché extrêmement élevé. Je contacte des bénéfices records. On parle de fiscaliser un peu plus la promotion des énergies dites renouvelables. Ça, on pourra discuter sur cet aspect renouvelable. Et donc, quelle est l'utilité de subventions ? Alors, il y a deux types de subventions, à l'investissement, c'est-à-dire pour construire. En gros, on a calculé au niveau du collectif scientifique national méthanisation raisonnée, on a calculé que pour 680 000 euros de subventions données, ça crée un emploi. Donc au final, on s'interroge beaucoup, est-ce que quand on crée un emploi dans la méthanisation avec 680 000 euros de subventions, est-ce qu'au final, ben, on n'est pas en train de faire des fonctionnaires, vu que c'est de l'argent de l'État, c'est notre argent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un service rendu, entre guillemets, c'est la production du gaz. Alors la production du gaz, de ce qu'on a vu, ce qu'on constate, ne serait-ce que par la loi, c'est qu'en 2024, ben, plus rien comme chaudière dans les bâtiments collectifs qui vont être construits. Ensuite, en 2028, ça s'arrête. Alors l'idée, c'est peut-être de faire une énergie intermédiaire. Le temps qu'on se sépare de cette énergie carbonée, hein, faut bien voir que le méthane, c'est un hydrocarbure comme les autres, hein, au même titre que le pétrole, le propane, le butane, etc. C'est-à-dire quand on le brûle, en présence d'oxygène, il va faire du CO2 et de l'eau. Faut bien voir que l'eau, hein, honnêtement, c'est le premier polluant atmosphérique. Alors ça, l'eau, on peut pas s'en passer, donc il faudra faire avec. Par contre, le CO2, il faut absolument le faire disparaître. Et donc, pour 33 milliards, on produit subventionne une énergie qui fait de plus en plus de dioxyde de carbone dans l'air, du CO2. Et là, on s'interroge, parce que quand on veut décarboner, ben déjà, on subventionne pas une énergie ultra carbonée, au final, c'est un hydrocarbure. Donc là, il y a une vision politique qui échappe parfois. Alors, on peut penser qu'au final, indirectement, les subventions données à la méthanisation vont permettre de compenser une baisse des primes de la PAC. Hein. C'est quelque chose qui est discuté depuis longtemps. On observe qu'elle baisse petit à petit. On peut se demander, au final, si cette énergie-là n'est pas pour créer, déjà, pour essayer d'être indépendant des énergies étrangères, et ensuite, de compenser ces subventions. Alors, là, il vient tout de suite une question. Hein. C'est, est-ce que par la méthanisation, on peut être indépendant énergétiquement.
J'allais te la poser. Est-ce qu'on peut compenser tout ce qu'on consomme avec la méthanisation ?
En fait, en France, en 2018, on consommait 429 TWh de gaz. Alors, TWh, ça veut dire quoi ? Un TWh, c'est des milliers de gigawattheures. Les gigawattheures, c'est des milliers de mégawattheures. Et les mégawattheures, c'est des milliers de kilowattheures. Et chez vous, vous consommez environ entre 20 et 30 kilowattheures. Donc ça vous donne une idée. Donc en France, c'est 429 terawattheures en 2018. En 2019, on en a consommé 440 terawattheures. En 2020, 479 terawattheures. Donc en gros, en 2 ans, on a consommé 50 terawattheures de plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les 33 milliards d'euros qui ont été donnés à la subvention à la méthanisation ? Eh bien, il y a 6 TWh qui ont été mis en place en France avec ces 33 milliards d'euros et 26 TWh en projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec 33 milliards d'euros, on n'a même pas compensé la différence de surconsommation en 2 ans. Alors maintenant, si on voulait créer des méthaniseurs pour faire tout le gaz que l'on a, eh bien en fait, on s'aperçoit qu'en France, on aurait besoin d'un méthaniseur tous les 2,5 km. Et là, ça pose un problème, parce que quand on regarde les méthaniseurs, ben chaque méthaniseur a besoin d'un rayon de chalandise, c'est-à-dire un rayon d'approvisionnement de l'ordre de 40 km. Ça, on l'a observé, on a épluché les 1649 dossiers sur lesquels on a pu obtenir des informations, parce qu'il y a des dépôts légaux qui se font, on peut consulter les documents. Donc il y a à peu près 40 km de périmètre de chalandise maximum moyen. Ça c'est le premier problème, parce que si un méthaniseur tous les 3 km ou même comme dans le Grand Est un méthaniseur tous les 7 ou 8 km, quand j'ai besoin de 40 km et que j'ai que 7 km à ma disposition, au final ben, je suis embêté parce que je viens rentrer dans la sphère d'achalandise de mon voisin. La zone de chalandise, c'est la zone dans laquelle vous venez chercher votre matière première, c'est-à-dire pour un méthaniseur, la matière végétale qu'il va venir consommer pour pouvoir produire ce gaz. Alors ça, c'est la première contrainte. La chalandise, plus il y a de méthaniseurs dans une zone, plus ils rentrent en compétition les uns avec les autres pour se fournir. Mais dans le processus de méthanisation, il y a une autre étape dont on n'a pas parlé. C'est qu'on prend la matière, les archébactéries fonctionnent, produisent le gaz, et ensuite, il y a une matière restante. Donc si on donne 100 000 tonnes à un méthaniseur en entrée, on va devoir récupérer 90 000 tonnes de matière qu'on appelle le digestat. Donc ce digestat, c'est la matière qui a été digérée. Alors quand je dis digérée, elle a perdu des choses, parce que si on a produit du carbone, ben ce carbone, il a disparu de la matière qui nous reste. Donc on arrive avec 90 000 tonnes de matière, 90% de ce qu'on a consommé, qu'il va falloir ensuite épandre, c'est-à-dire qu'on va l'étaler sur le sol pour, selon la vue des prométhanisations, pour nourrir le sol. Alors en fait, cette matière qu'on appelle le digestat, ce qui a été digéré, entre guillemets, elle a perdu du carbone. Alors elle n'a pas perdu n'importe quel carbone, elle a perdu le carbone du sucre, entre guillemets. Ce carbone du sucre, c'est celui qui nourrit les bactéries du sol.
Donc, et puis elle a perdu aussi tous les microbes qui étaient dans la matière vivante, enfin, dans la première matière apportée.
Parce alors que effectivement, il y a une charge.
Il y a de la chaleur. Mais ce qui va rentrer dans le méthaniseur, il y a bien des bactéries, des microbes,
non,
des petites bestioles.
C'est rien du tout,
qui...
Non, c'est rien du tout. Non, c'est négligeable.
Parce que justement, quand j'ai récupéré des bouts de ville de la ville de Reims, il n'y a aucun truc vivant. Et moi, quand je prends mon composteur, il y a plein de bestioles dedans.
Alors, c'est pas ça. C'est que les bouts de la ville, par exemple, heureusement, n'ont plus de bactéries. Tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, on aurait une pollution massive de l'eau. D'accord ? Parce que vous épandriez de grandes quantités de matières qui contiennent des bactéries, comme Escherichia coli, qui seraient très nocives. Et là, on polluerait l'eau à une vitesse éclair. Donc, c'est important, justement, qu'elle soit dépourvue de ces bactéries-là. Pour le méthaniseur, ce digestat qu'il faut épandre, donc 100 000 tonnes rentrées, il y a 90 000 tonnes qui doivent ressortir. Il y a une loi qui dit qu'on peut étendre que 30 tonnes par hectare et par 10 ans, donc 3 tonnes par hectare par an. Si on fait ça, c'est pas pour rien, tout simplement, parce que plus vous épandez, plus vous rajoutez de la matière sur le sol, alors ça l'enrichit, mais hélas, il y a eu beaucoup de problèmes de nitrates, des choses comme ça qu'on retrouve dans les eaux, ou de bactéries. En effet, à la sortie d'un méthaniseur, ça peut être très riche en bactéries, et notamment certaines bactéries pathogènes qui prolifèrent en milieu anaérobie, et ça peut être un souci. On a à peu près en moyenne entre 5 et 10 accidents de pollution de cours d'eau et de nappes phréatiques en France. Je vais prendre l'exemple de Raricourt et Froidos, à peu près à 50 minutes de Reims, sur l'autoroute en direction de Strasbourg. Et il y a eu un épandage pas loin du captage. Et pendant un mois et demi, les gens se sont retrouvés sans eau potable. Ils ont dû boire et se laver à la bouteille d'eau en plastique. Pendant un mois et demi, mais surtout, c'est à la charge de la commune.
C'est à la charge de la commune.
Ah, bien sûr, oui. Il faut faire la preuve que c'est...
Que ça vient d'un méthaniseur.
On le pense, mais c'est toujours dur à prouver. Et bon, malgré que le propriétaire ait reconnu les faits, ça reste toujours à la charge de la commune.
Waouh. Et pour répondre,
toujours l'argent public.
Une commune de 150 habitants, donc ouais. Un budget limité.
Est-ce que le digestat tel qu'il sort, on l'épand, est-ce qu'il est nutritif pour nos plantes?
Alors, le digestat, la principale qualité qu'il a, et ça c'est un problème en France, c'est qu'il est riche en azote. Et en France, globalement, on manque d'engrais azotés, on a beaucoup fait d'engrais minéraux qu'on faisait importer, ça c'est très polluant. Pour nourrir les sols. En effet, en France, on a un modèle d'agriculture intensive, de manière majoritaire, ça on peut le regretter, à titre individuel, je le regrette, qui fait qu'on a besoin de toujours nourrir plus les sols, surtout qu'on leur demande de produire énormément par mètre carré.
C'est parti pour la barbeur partie.
On l'a dit, on n'y a pas cru, v'là qu'aujourd'hui on est tous cuits. C'est peu dire qu'on a le feu au cul.
Bienvenue dans la barbecue party.
Pour faire monter la mayonnaise, de Dunkerque jusqu'à Rodez, tout le monde souffle sur les braises,
même que c'est nous les merguez.
On mixe
des tubes de crème solaire,
on bronze jusqu'au cercle polaire. Le cul
toujours sa mère.
Il faut prendre ça du bon côté.
Tout ça Walpé dès février.
Même plus peur de se faire griller.
Au bal cramé, ohé ohé. Viens-tu dans la barbe partie.
Allez, on s'amuse dans les sols.
Du 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 du. Tous les nuages sont partis.
On fait une tournée par un sol.
Du 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 du. Tout 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 le monde en garçon. Et on fait flamber la chemise.
Chaud chaud.
Sunlight était sceptique, y'a une brochette de scientifique
qui nie les pics de CO2.
Même si ça pique un tout petit peu les yeux,
on voit bien que c'est pas des salades. On prend un degré centigrade
à chaque rapport du GIEC. Mais en vrai, on s'en bat les steaks.
Hey, vamos tous,
tous à être ça, faire la fête comme à Ibiza. C'est les pays en développement qui se mangent les ouragans.
Canicule et cancer de la peau,
on s'en fout, on continuera.
Carbonisé comme des chipots,
à se foutre de la gueule de Greta. Bienvenue dans la barbe partie.
Allez, on s'amuse, on rissole.
Du 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 du. Tous les nuages sont partis.
On fait une tournée parasol.
Du 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 du. Tout 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 le monde en caleçon. Et on fait flamber la chemise.
Chaud 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 les glaçons.
Et ainsi fond fond la banquise.
Il restera toujours Dubaï.
Et sinon pour faire du patin,
la qualité glace à Versailles.
C'est certain que dans 10-15 ans, on aura tous un peu trop chaud.
On n'en rira même pas un moment,
les enfants de Véronique Courgeot. Bienvenue dans la barbe partie.
Allez, on s'amuse, on ruisselle.
Du, 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 du. Tous les nuages sont partis.
On fait une tournée parasol.
Du, 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 du. Tout, 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 tout le monde en caleçon. Et on fait flamber la chemise.
Chaud, 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 chaud les glaçons.
Et ainsi fond, fond la banquise.
On a vraiment de quoi être fier. Notre pays est si prospère.
Grâce aux entreprises nationales, Total, Société Générale.
On attend de voir leur logistique. Quand dans 60 ans au plus tard,
tous les réfugiés climatiques
ne viendront plus chez nous par hasard. Bienvenue dans la barbe partie.
Allez, on siphonne tous les sols.
Du, 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 du. On n'oublie pas de faire des batteries
pour faire tourner les bagnoles.
Tout, 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 tout le monde au charbon. Et on fait flamber les marchés hier. Yeah. Chaud, 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 chaud les actions. Et ainsi font, font les banquiers.
Yeah, yeah.
Avant, il y a très longtemps, les agriculteurs, on les appelait les paysans parce que c'était des polyculteurs, d'accord. Il y avait des végétaux, on donnait à manger ces végétaux à des animaux, les animaux faisaient du fumier, le fumier servait à renourrir le sol, etc. Il y avait des poules, il y avait des cochons, etc. C'était des polyculteurs. Ensuite, petit à petit, on s'est spécialisé et les agricultures, notamment céréalières ou sucrières, hein, je vais l'associer, nécessite beaucoup d'énergie dans le sol, beaucoup de quantité de matière. Et notre sol est très souvent dépourvu en azote. Et donc, un des intérêts du digesta, c'est qu'il est très riche en azote. Alors, pourquoi il est riche en azote? Il y a un rapport qui est important dans la matière organique, c'est le rapport entre la quantité de carbone qu'il y a dans la matière organique et la quantité d'azote. En général, il y a à peu près 20 à 25 fois plus de carbone qu'il n'y a d'azote. Alors ça, c'est bien pour nourrir le méthaniseur, par exemple. Ça, cette matière est bien comme il faut. Si vous prenez le fumier, vous arrivez à des taux de carbone sur azote qui sont à peu près proches. Et ça, ça amende bien le sol aussi. Quand on fait passer dans un méthaniseur, comme ce méthaniseur va, entre guillemets, piquer le carbone pour en transformer en gaz, donc rappelez-vous, on a 100 000 tonnes au départ, on a 90 000 tonnes de digesta. Entre deux, on a créé 10 000 tonnes de gaz. Sur ces 10 000 tonnes de gaz, il y a 6 000 tonnes de méthane et 4000 tonnes d'autres gaz, essentiellement du CO2. Donc, on se retrouve avec 6000 tonnes plus 4000 tonnes, 10000 tonnes de carbone au final. Entre autres, il y a de l'oxygène aussi, mais 10000 tonnes de carbone qui ont quitté la matière. Ça a été perdu, de la matière. Donc, comme on a fait diminuer le carbone, parce qu'on l'a pris pour en faire du gaz, ben, au final, l'azote qui n'a pas été utilisé, lui, il est monté quand on fait le rapport entre les deux. Et donc, quand on va épandre ces matières, c'est des matières très riches en azote. Alors, il y a une petite particularité biochimique lors de cette réaction, c'est que on va ne plus être en milieu, comment dire, acide ou neutre, on va être basique. Alors, c'est quoi acide ? Acide, c'est quand vous mangez une orange ou buvez une boisson, un soda, d'accord ? C'est cette acidité-là. Et basique, c'est tout l'inverse, c'est ce qu'il y a dans le chocolat ou ce qu'il y a dans le dentifrice. Attention, il ne faut pas se brosser les dents avec du chocolat. Mais basique, c'est l'inverse d'acide, hein, les deux se neutralisent. Et là, l'azote, il est sous une forme basique. Alors, sur une forme acide ou neutre, l'azote est sous la forme de d'ionitrate. Donc, il y a NO3-. Et sous la forme basique, les ions sont en forme NH4+. Il vous échappera pas que je vous ai parlé de NO3-, petit symbole moins, et de l'autre côté, NH4+. Alors, comme la nature aime bien les nitrates, au final, c'est pour ça qu'on leur en met beaucoup, hein, les nitrates chargent moins, ben les racines sont chargées positivement. Comme ça, le moins est attiré par le plus, et comme ça, le nitrate peut rentrer dans les racines. Et quand on fait de la méthanisation, la forme d'ammoniac, enfin d'azote que l'on a, ben le NH4+, plus et plus, ben elle se repousse les charges. Et donc, la matière azotée a du mal à pénétrer à l'intérieur des racines. Et donc, au final, il faut que ce soit certains micro-organismes dans le sol qui vont faire des réactions d'ammonification pour transformer ce NH4+, en NO3-, qui pourra rentrer, lui, dans les racines. Et au final, à la longue, ou s'il y a surépandage, on peut observer ce qu'on appelle une asphyxie des sols, c'est-à-dire que le sol perd sa capacité, à force qu'on lui donne quelque chose qui n'est pas forcément adapté, perd une capacité à pouvoir ammonifier et ensuite intégrer cet azote à l'intérieur des racines. Donc c'est ça un des problèmes de la méthanisation, c'est la forme d'azote qu'il procure. Donc certaines personnes qui ont des méthaniseurs choisissent la solution, je crois qu'il s'appelle le stripping, qui est d'utiliser de l'acide sulfurique concentré, alors très concentré, hein, pour m'être brûlé les mains à l'acide sulfurique pendant mes études, je sais de quoi je parle, avec des grosses bonbonnes, et qui vont venir rétablir ce pH de basique vers un pH neutre ou acide. Comme ça, ils changent la forme d'azote. Alors, ça amène à d'autres problèmes, parce que je veux dire, si c'est une énergie renouvelable, bio, entre guillemets, si on commence à utiliser des bonbonnes d'acide sulfurique, surtout quand on n'a pas les qualifications, ça peut être un énorme problème et ça présente beaucoup de risques.
Oui, et en plus de ça, j'avais lu, il me semble que j'avais lu une recherche que certains vers de terre étaient tués avec le digestat.
Alors, nous, on a pu l'observer, il y a un deuxième collectif qui s'appelle le Collectif National Vigilance Méthanisation, qui est une association qui regroupe des centaines d'associations de riverains. Et dans ce collectif, c'est pas une association, c'est un collectif. Dans ce collectif, on reçoit des vidéos, on reçoit des informations de gens qui habitent à côté de méthaniseurs ou de zones d'épandage. Et donc, voilà, on a pu constater que très souvent, il y avait des vers de terre qui ressortaient du sol et puis qui mouraient. Enfin, sur des champs, c'était assez effroyable. Donc là, c'est sûrement dû au fait que le sol n'était pas adapté à l'épandage. Sûrement dû au fait qu'il y a une asphyxie des sols et donc les vers de terre essaient de s'enfuir et puis ils n'y arrivent pas. C'est de la chimie au final. C'est de la chimie, de la biochimie, c'est de l'équilibre des sols. Et épandre juste pour épandre, c'est porter une atteinte forte au sol. C'est-à-dire si les calculs n'ont pas été faits, parce que le sol peut avoir besoin à tel moment de telle chose, en telle quantité, et à un autre moment d'autre chose. Donc au final, il y a un équilibre hein, chimique, biochimique, écologique à avoir qui fait que ça rend au final très compliqué le fait d'épandre ou pas.
Mais ça, c'est surtout lié à la grande culture, à l'industrialisation de l'agriculture.
Alors,
à la demande de toujours plus.
Alors dans le cas d'une intensification de la production, on a besoin de toujours plus d'azote et toujours plus et toujours plus. Effectivement, dans le cas d'une agriculture intensive, la méthanisation s'impose tout naturellement. On est là pour produire toujours plus, donc il faut toujours plus d'énergie. Et comme on doit produire plus, on fait encore plus d'énergie. Comme on fait plus d'énergie, ben, il faut produire plus, ainsi de suite. Ça crée un cercle totalement vicieux. Effectivement, la méthanisation vue à petite échelle peut être tout à fait vertueuse. C'est-à-dire que chaque agriculteur sait ce qu'est un vrai déchet. Et cette notion de vrai déchet, je voudrais m'y attarder un petit peu. Un vrai déchet, c'est quelque chose que vous ne pouvez rien faire d'autre. Un agriculteur qui a sa petite exploitation, il a ses différents animaux, par exemple, effectivement, l'élevage est central dans une production agricole, parce qu'il permet justement un cycle du carbone et de l'azote. Voilà, bah après c'est discutable, la viande, voilà, je sais que c'est pas forcément dans l'air du temps, mais d'un point de vue écologique, l'animal participe à l'écosystème. Un vrai déchet, c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire d'autre. Par exemple, on ne peut pas nourrir les poules avec, on ne peut pas les pendre sur les sols, c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire qui nous embête. Ça, si vous le méthanisez, c'est tout bénef. D'accord ? C'est bénef pour la nature, parce qu'au final, elle ne peut pas le dégrader peut-être avant des siècles. C'est bénef pour avoir de l'énergie. Et puis, aucun animal, aucun être humain ne pâtira de cette absence. Le problème actuel, et un certain nombre de reportages qui le montrent, c'est que quelque chose qui pourrait être utilisé ailleurs, je prends l'exemple ici, dans la Marne, hein, les pulpes de betteraves. C'est le résidu qui reste après la récupération du sucre des betteraves. Eh bien, ça servait à nourrir les animaux avant. Ce qu'on a pu observer au niveau des collectifs nationaux, c'est qu'on met ces pulpes de betteraves dans les méthaniseurs. Alors pourquoi on les met dans les méthaniseurs ? Parce que c'est riche en carbone, ça peut produire du gaz. Mais le problème, c'est qu'on l'a piqué aux éleveurs. Mais les méthaniseurs, eux, sont subventionnés. Donc ils peuvent les acheter cher, même très cher, ce que ne peut pas faire un éleveur. Et donc, en les mettant dans les méthaniseurs, l'éleveur, lui, n'a plus de nourriture pour ses animaux. Parce que les autres matières qu'il pourrait donner, parce que les animaux ont besoin de carbone, ils ont besoin de sucre, et puis c'est certains sucres qui sont assimilables par les animaux et pas d'autres. Hein. Les animaux ne peuvent pas manger du bois, par exemple, il leur faut de la pulpe de betterave, des céréales, etc. Ben, les éleveurs se retrouvent obligés de demander des subventions pour nourrir les animaux, parce que des gens qui avaient des subventions plus grandes ont acheté la matière qu'ils pouvaient donner à leurs animaux. Donc, on peut sans fin subventionner quelque chose qui fera appel à toujours plus de subventions. Et je vous rappelle, une subvention, c'est quelque chose qui est fait pour donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Et au final, on se retrouve à appauvrir un système de plus en plus, un système inflationniste qui demandera toujours plus d'injections pour prendre toujours plus.
Mais j'ai rebondi tout de suite qu'on a vu un film avec Sylviane il y a 15 jours qui s'appelle, et donc je le recommande aux auditeurs et auditrices, qui s'appelle « Tu nourriras le monde et à quel prix ?» où en fait justement il parle, il débute au moment où les fermes avaient des animaux et tout fonctionnait bien, où quand l'agriculture, le modèle intensif est arrivé, avec voilà, on vous vend à crédit des tracteurs, mais en même temps il faudra nous acheter nos engrais. Et tout ce mécanisme de devoir produire plus pour pouvoir rembourser ce qui nous a permis de pouvoir produire plus, en fait.
J'ai justement étudié le discours d'un collègue, parce que je l'ai rencontré au cours d'une conférence, qui s'appelle André Blouet, un monsieur qui a enseigné en lycée agricole pendant plusieurs décennies, qui m'a justement expliqué comment quelle évolution l'agriculture française avait subi depuis l'après-guerre, où on était, enfin, il y a certains modèles agricoles, hein, comme élever les porcs avec du trèfle blanc, etc. Enfin, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, un système qui a besoin de toujours plus d'azote et toujours plus de productivité et toujours plus de mécanisation. Alors, certains diront qu'il faut nourrir le monde. C'est vrai qu'il faut nourrir le monde. Après, quand vous faites une méthode, et ça, c'est mon avis, quand vous utilisez une méthode qui, au final, appauvrit un peu plus à chaque fois que vous l'utilisez, vous n'avez pas une vision durable.
C'est pas viable, on est d'accord. C'est pas viable du tout.
Et je préfère employer le mot durable parce qu'on nous parle beaucoup d'énergie renouvelable. Il faudrait rajouter énergie durable. Je prends l'exemple de la méthanisation. Quand on pique le carbone de la matière organique, et cette matière organique, on la remet sur le sol, ben on a donné moins de carbone au sol. Et vous recommencez ça plusieurs fois, chaque fois que vous le faites, vous enlevez un peu plus de carbone que vous mettez sur le sol. Alors, pour repérer un méthaniseur qui fonctionne très mal, on les repère tout de suite parce que le long des dômes, vous allez voir des coulures. Et quand il y a des coulures, là, vous pouvez appeler Adréal qui ne bougera pas, d'ailleurs. Je ne vais pas jeter la pierre parce que je suis dans une administration, moi aussi. On n'est pas assez nombreux. Hein. D'accord ? Et eux aussi le sont aussi. Ils ne peuvent pas être partout. Mais voilà, si vous voyez des coulures le long du béton, vous savez que là, le méthaniseur, ça ne va pas du tout. D'accord ? Alors après, des fuites, il y en a multiples reprises parce que ce digestat, il va être pris, il va être transporté, il va être répandu, etc. Donc au final, ça a une vocation à fuir. C'est-à-dire que c'est épandu dans la nature. Oui, allez-y, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Hein.
un incendie dans un méthaniseur, ça génère quoi?
Alors ça va générer toutes sortes de gaz. Alors le problème d'un incendie, le plus souvent, c'est les matières agricoles. Donc déjà, ça va générer beaucoup de CO2. Ça va générer des suies, ça va générer des microparticules. Justement, avec le fonctionnement des méthaniseurs, il y a des questions qui se posent sur l'émission de nanoparticules. On parle beaucoup des villes qui sont polluées par les carburants, mais l'essentiel des l'immense majorité de nos nanoparticules dans l'atmosphère en France provient de l'agriculture. Alors c'est pas sa faute, d'accord ? Désolé, je fais une digression. Hein. C'est pas sa faute parce que de manière naturelle, de toute façon, la matière quand elle se dégrade va faire de l'oxyde d'azote. Oui, mais avant les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ben, quand ils faisaient leur tas de déchets, ils le laissaient là et après ils l'enfouissaient. C'est ce qu'on fait avec son compost. Donc après, tu me demandes ce qui se passe lorsque ça brûle. Ben, ça va brûler tout ce qu'il y a. Si c'est des bâches en plastique, ça va faire du plastique brûlé. Si c'est du fumée qui brûle, ce qui arrive, c'est pas rare. Ben, ça fera comme un tas de fumée brûlée. Globalement, il n'y a pas plus de gaz mauvais dans un incendie de méthaniseur, sauf, et là je viendrai plutôt au fait des explosions. Parce que quand il y a une explosion qui peut être consécutive à un incendie, le problème c'est la libération d'hydrogène sulfuré. Et là, ça c'est un gros problème, parce que déjà c'est très polluant, c'est très corrosif, hein, l'hydrogène sulfuré ça bouffe l'inox. Hein. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup de substances qui le font. C'est pour ça que l'espérance de vie d'un méthaniseur c'est une quinzaine d'années. Parce que les conduites en inox du méthaniseur sont rongées. Et à la fin, il faudrait changer tout l'inox. Donc au total, il vaut mieux fabriquer un autre méthaniseur. Néanmoins, on peut l'entretenir. Plus un agriculteur l'entretiendra bien son méthaniseur, moins il aura de malchance d'avoir une explosion, moins il aura de malchance d'avoir un incendie, parce que ça peut être souvent consécutif à l'explosion. Et plus il va avoir une réaction de méthanisation qui sera meilleure. En fait, tous les méthaniseurs qui ont des coulures sur le côté, en général, quand il y a des coulures, ça fait rentrer de l'oxygène. Et quand il y a de l'oxygène, ça étouffe le méthaniseur, qui va produire plus de soufre, plus d'hydrogène sulfuré, qui va avoir une moins bonne méthanisation. Et donc, au final, l'agriculteur s'appauvrit, parce qu'il a moins de gaz, il en vend moins. Et comme il appauvrit, il peut moins faire les réparations. Donc ça crée une chaîne vicieuse. Et donc, on a eu, nous, des agriculteurs qui sont venus nous voir au CSNM, parce qu'ils étaient partis en faillite. Donc, c'est sûr que GRTF et GRD Gaz, ils sont là à vous vendre leurs trucs. Mais le jour où vous êtes en faillite, vous êtes tout seul. Et donc ces gens-là viennent nous voir, parce que qu'est-ce qu'il a eu le gars ? L'entreprise qui a monté son méthaniseur, elle a mis la clé sous la porte. Donc il a dû faire sa maintenance tout seul. Ok ? Donc, une année de sécheresse, pouf, il a moins d'intrants. Il va en acheter, s'embête. Ça marche pas bien, parce qu'il y a des problèmes de réglage, il trouve plus les pièces. En 3-4 ans, c'était fini. 500 000 euros à éponger pour lui, 200 000 pour son frère. Voilà. Et il est tout seul. Donc c'est pour ça qu'il est venu nous voir, trouver des informations scientifiques, pour ensuite aller faire un procès contre ceux qui l'ont vendu ça comme un complément de revenu, une diversification de ses revenus. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, c'est l'incendie en lui-même, je ne peux pas répondre directement. S'il est couplé à une explosion, ça va libérer certains gaz. Si c'est juste un tas de fumée qui brûle, ça sera juste un tas de fumée qui brûle. Le problème, c'est qu'on concentre en un seul lieu beaucoup de choses. Hein. Les méthaniseurs sont en injection, donc il y a l'injecteur. Ça peut tout de suite dégénérer. Il peut y avoir un effet qu'on appelle domino sur les différentes structures qui cassent les unes après les autres. Et voilà. Puis la pollution des eaux aussi.
Et la deuxième question, c'était sur les sols. Toutes les surfaces qui sont évoquées dans la présentation,
oui,
sont des surfaces d'épandage systémique, c'est-à-dire tous les ans. Parce que j'avais cru comprendre à un moment donné qu'il fallait faire une rotation pour ne pas saturer les sols.
Alors, on est limité, alors c'est ce qui a été pris, à 30 tonnes. Alors là, c'est pour une année. Par exemple, quand on te dit qu'il faut 8 départements pour répandre, donc c'est la SAU de 8 départements qu'il faudrait prendre. Mais, et chaque hectare, on n'en a droit qu'à... Alors, c'est 30 tonnes par hectare par 10 ans. Donc, ça fait 3 tonnes par hectare par an. Donc, quand vous générez 80 000 tonnes, il vous faut 80 000 divisé par 3. Donc, ça fait un peu moins de 30 000 hectares sur une année. Et si vous mettez 10 tonnes et que vous attendez... si vous mettez 30 tonnes par hectare et que vous attendez 10 ans, à ce moment-là, il faudra trouver des hectares ailleurs. Donc, voilà. Mais en général, ils préfèrent épandre, comme on le voit vers chez nous, épandre plusieurs fois dans l'année, enfin deux fois par an. Il y a deux saisons d'épandage de manière réglementaire dans la Marne. et ces épandages-là, plutôt répétitifs, qui sont visibles. Moi, je vois autour de chez moi, je ne suis pas loin du complexe industriel de Pont-la-Boisoncourt, un champ dont je sais la superficie, je suis étonné du nombre de camions qui viennent. Ah ben, il n'y a aucun contrôle. Alors, à titre personnel, moi, je suis allé voir, hein, le champ, quand il a épandu, il y a le bulle qui passe. Je viens, je fais une carotte, puis j'en fais deux, trois, puis après, je pèse. Comme je connais la section de la carotte, je peux la ramener à la surface et je vois le tonnage. Le tonnage n'est pas satisfaisant. Mais surtout, non seulement il n'est pas satisfaisant là, mais surtout quand il répand 6 mois plus tard ou dans un an, ça veut dire que clairement, il y a un épandage qui est trop important. Mais si personne ne le contrôle, moi je peux venir, d'accord ? Mais de toute façon, je n'ai pas le droit de le contrôler. D'accord ? Et si jamais je voulais faire un contrôle, vérifier que cet épandage était bon, je n'ai pas le droit, il y a la loi sur le secret des affaires. Donc je n'ai pas le droit de chercher. Je peux saisir l'État pour qu'il le fasse, après s'il ne le fait pas, je n'y peux rien. Mais il faut que je lui prouve quelque chose pour qu'il le fasse. Et comme je n'ai pas le droit de le prouver...
Au-delà du contrôle, il sature son sol, ce qui n'est pas bon pour l'humanité.
Alors, quand on réfléchit à court terme, du genre, moi j'ai mes traites à payer, etc., sur 10 ans, ça va encaisser. Mais après, sur le temps, de plus en plus longtemps, il faudra de plus en plus, comme il va petit à petit affaiblir son sol, réduire le nombre de micro-organismes, il faudra plus de matière à épandre pour pouvoir compenser cette perte. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et il en met toujours de plus en plus. C'est une fuite vers l'avant pour se tenir un marché qui est de plus en plus déficient. Oui ?
Comment c'est mesuré par la métropole ? Est-ce qu'il y a des points, est-ce que c'est mesuré en continu ? Est-ce que c'est mesuré à plusieurs endroits ?
Alors là, pour le coup, je me suis vraiment penché sur le sujet parce que je l'ai utilisé dans le cadre de procès. Alors j'allais dire que je parlais à proximité du pôle industriel de Pomac-Bazancourt, qui a été un des plus surveillés du coin. Puisqu'il y avait beaucoup de problèmes de nuisance jusqu'à 10 km à la ronde, hein, ça venait empester Reims. Donc ça posait des problèmes politiques. Donc des gens sont intervenus, ils ont demandé à Atmo Grand Est de venir tous les ans faire un bilan. Ben, dès que nous, on a utilisé ces résultats en procédure pour faire des procès contre l'installation d'un méthaniseur, plus jamais il y a eu une seule mesure sur le pôle industriel. D'accord ? Ils n'en ont plus jamais fait. Voilà, je constate. Donc, au niveau du Grand Reims, il y a suffisamment de gens, je pense, qui ont râlé. Il y a eu plusieurs fois la une de l'Union. Donc, je parle du Grand Reims parce que je connais mieux. Hein. Je suis désolé si vous habitez plus loin. Il y a des gens qui ont râlé parce qu'il y a des odeurs d'épandage, etc. Et puis le pôle industriel aussi un peu. Ils ont décidé de mettre en place une application qui s'appelle Audio. Voilà. Bon, qui ne marche quasiment pas sur le téléphone. Il faut aller sur le site internet. Ça ne marche souvent pas. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Donc ça a été mis au point par Atmo Grand Est. Ça reste à améliorer. Donc moi, je vous invite énormément à utiliser cette application Odo chaque fois que vous percevez une odeur. Où que vous soyez en France, si vous percevez une odeur, vous pouvez la saisir sur Odo. Odo vous localise quand ça marche. Alors, il y a toute la carte de France. Mais après, c'est pas tout le monde qui récupère les résultats. Voilà, la Marne, en tout cas, sur ça marche, ça le fait.
Mais non,
Odo, Odo. Vous tapez sur Google Play ou Play Store ou je sais plus quoi, enfin sur votre téléphone, vous l'avez. Sinon sur Internet. Donc là, vous pouvez signaler une odeur. Ensuite, au Grand Reims. Alors, à côté du pôle industriel de Pomac-Bazancourt, il y a des jurys de nez. C'est des gens qui ont été formés par les industriels pour reconnaître les émanations, qui savent reconnaître ces épandages. Et ensuite, en surveillance, là, il y a une tour qui a été faite sur le campus où je travaille, campus Moulin de la Housse, une tour de 40 mètres qui s'appelle ICOS, qui est là pour surveiller l'air. Et il y a une chaire universitaire aussi qui a eu pour but d'étudier les effets atmosphériques. Donc là, il y a un avion qui passe régulièrement et qui survole et qui fait des carrés, enfin tous les 20 mètres, je crois que c'est des carrés de 20 mètres de côté, et il fait des mesures comme ça, il passe, il repasse, ainsi de suite. Et comme ça, ils ont pu repérer d'ailleurs que des méthaniseurs fuyaient. Alors ils ne l'ont pas fait là, ils l'ont fait ailleurs, pour tester leur système, si j'ai bien compris ce que m'a dit le titulaire de la chaire. Et évidemment, il y a un autre réseau après de surveillance, qui est celui d'Atmo, qui, je crois, à la demande des politiques. Alors moi, je vois au village où je suis, Bourgogne-Fresnes, ça a eu lieu, ils ont laissé en place une station. Alors ça ressemble un peu à un fourgon de chantier. Ils l'ont laissé là pendant 2 ans, je crois. Ils l'ont laissé pour mesurer l'impact du flux routier sur les pollutions du village. Bon, je n'ai jamais vu les chiffres. J'aimerais bien. Voilà, à ma connaissance, voilà, le réseau, c'est celui-là. C'est plutôt restreint. Surtout quand on voit les déclarations des jurys de nez qui, lorsqu'ils disent qu'il y a quelque chose, on leur explique que ça n'a rien à voir avec le pôle et que c'est le problème de personne, finalement. Que lorsque vous utilisez les valeurs du jury de nez en procédure, bah, ça n'a pas de valeur. Que personne ne veut mettre un appareil pour mesurer. Au final, je me dis que... Voilà, on ne cherche pas.
Il a un possible de la qualité de l'air pour expire dans une campagne.
C'est possible. Techniquement, c'est tout à fait faisable. Enfin, à l'université, il y a des gens, ils vont mesurer l'atmosphère sur Titan. Hein. C'est un satellite de Jupiter. Alors, on pourrait automatiser ça, en mettre plusieurs points. Apparemment, ça coûte un peu d'argent, mais je pense que la santé, elle coûte vachement plus cher.
Les subventions coûtent beaucoup d'argent.
Ouais, les subventions coûtent beaucoup d'argent, et la santé, surtout, elle, ça revient beaucoup plus cher après les gens malades. Voilà, moi j'ai pas de solution, hein. Faudrait saisir nos politiques, les interpeller. Ben, le maillage, il est bien pauvre, le maillage. Il y a plus de radars routiers que de contrôle de.
Ça rapporte tout de suite. Ça s'autofinance,
parce que vraiment, par des odeurs. Ah non. Ah bien sûr, l'oxyde d'azote, vous ne le sentez pas. L'hydrogène sulfuré. Alors l'hydrogène sulfuré, ça sent terrible. Après, l'hydrogène sulfuré, si vous le sentez trop et que d'un coup vous ne le sentez pas, il faut partir. D'accord ? L'hydrogène sulfuré a la faculté d'endormir votre nez. Et c'est là en général les accidents mortels avec les méthaniseurs. Parce que les gens s'habituent à l'odeur quand c'est des fuites. Et après, ils ne captent plus. Et c'est là en général où ils font des malaises sur place. D'accord ? Donc, et à part l'hydrogène sulfuré qui sent l'œuf pourri, mais c'est vraiment un cas extrême, il faut vraiment de grosses fuites. La plupart des gaz ne sentent pas. Ou alors des gaz qui ne sentent pas quand ils se retrouvent mélangés peuvent réagir et là générer des odeurs qui sont imperceptibles. Et ça, c'était le problème à proximité de la plaque. Ils ont détecté 30 molécules polluantes dans l'air respiré autour de la plaque, c'est-à-dire dans les 5 km autour ou plus. Et ces 30 molécules, aucune n'est discernable. Et par contre, et le cocktail est tellement riche et surtout en dessous du seuil légal. Mais comme il y en a 30, elles se mélangent, se combinent, et apparemment, ça génère des odeurs. Ils ne savent pas trop comment, mais ça les génère. Et c'est la superposition de toutes ces molécules qui semble générer ceci. Oui ?
Moi, je ne vais pas poser une question, mais j'ai envie de faire une synthèse de tout ça. C'est quand même, on est en train de parler de pollution extractive, on est en train de parler de bidouillage grossier de gaz, qui sentent ou qui ne sentent pas. De toute façon, je fais la parenthèse que tous les matins, je vais bosser à Reims, et quand je fais la route entre Cire et Tessy, des fois, ça pue, mais c'est une odeur acide, et c'est appelable. Hein. Mais je me doute que c'est les épandages hein, qui posent ces odeurs-là. Enfin, voilà, je vais faire la synthèse. On est en train de dire quand même qu'il y a un gros impact sur l'environnement, qui est quasi... c'est de l'autosuicide, hein, si je fais la synthèse. Là, c'est de l'autodestruction. Tout ça... pour un dôme inesthétique, dont la promesse au mieux, c'est 10% de rendement. C'est-à-dire que si on vous vend, c'est comme si vous vendez une LED de 100 watts qui éclaire 25 watts en réalité. Ça, c'est au mieux. Et quand ça fuit, c'est à descendre 5%. J'ai dit, mais pourquoi ? Pourquoi on s'emmerde avec ça ?
Je pense que le chiffre, le nombre, il est plus compliqué à calculer que ça.
Mais c'est politique.
C'est un choix politique. Oui.
Je pense que c'est politique. Comme l'État n'a jamais réussi à débrouiller avec le problème des agriculteurs du prix des trucs, il y a une forme de dédommagement qui est purement politique. Enfin, moi, c'est mon avis par rapport aux agriculteurs. Moi, je suis dans la plaine de l'Abri. C'est-à-dire, il faut voir les subventions, c'est à coût de 400-500 000 que Précresse donne à chaque fois en entrant en construction sur le métallisme. Non, je pense que c'est un choix politique qui est une forme de dédommagement. Il y a un gros lobbying avec la FNSEA qui n'est quand même pas des moindres. Il y a un gros lobbying avec les sociétés de chasse qui sont parfois les mêmes que la FNSEA. Et en fait, on s'est aperçu qu'au bout du compte, il n'y a pas de courage politique surtout. La distribution,
ça sent quand même un gros, je ne vais pas dire évasion fiscale, c'est pas du tout le terme, mais je dirais plutôt un détournement de fonds. Public.
Alors, c'est nous qui paye. Hein. Du moment où les gens ont voté pour une loi, on ne peut pas parler de détournement de fonds. Oui, il y a des élus qui ont voté pour cette. Voilà. Par contre, on peut imaginer ça comme une certaine forme de lobbying, c'est-à-dire qu'on favorise un groupe, d'accord, en dédommagement. Alors normalement, le principe de la subvention, si j'ai bien compris un principe économique, une subvention, c'est quelque chose qui est fait pour donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Et de ce que j'ai bien compris, apparemment, le gaz a énormément de valeur, a fortiori aujourd'hui. À quoi ça sert de subventionner quelque chose qui a énormément de valeur? Moi, ceux que j'ai rencontrés qui m'ont parlé, on leur a vendu ça comme une rente. Moi, je vois le métalliseur à côté de chez moi, 2,3 millions d'euros de subvention. Les agriculteurs, quand on a discuté, enfin, il y en a qui acceptent de parler, ils ont dit, pour nous, c'est une rente. J'ai mis 100 000, comme ça, j'ai un ticket dedans, et on me garantit 7 à 8% par an. Donc, je veux dire, c'est un placement. En plus, c'est défiscalisé complètement. Tous ces méthaniseurs ne payent pas de taxes locales. D'accord? C'est zéro. Il y a l'exonération totale de contribution foncière d'entreprise, exonération totale de foncier non bâti, fiscalité agricole. D'accord? Il n'y a rien, monsieur le maire pourrait le dire. Par contre, il y a production de gaz. C'est vrai qu'il y a production de gaz. À condition que vous ayez une chaudière récente. Hein. Les chaudières de plus de 7 ou 8 ans ne peuvent pas brûler le méthane. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous, vous allumez, le méthane ne peut pas être brûlé. Il faut une certaine température de flamme, enfin, il faut les chaudières un peu récentes. Au revoir. Oui, plaisir. Donc l'un dans l'autre, on peut sérieusement se poser la question de l'utilité. C'est ce que veut faire le CSNM. C'est-à-dire, voilà, vous nous donnez un certain nombre d'arguments, voilà, nous cherchons dans la littérature mondiale, d'ailleurs, je prends un exemple des États-Unis, souvent décrié, hein. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les conséquences qui peuvent être négatives des méthaniseurs. Mais ils font ça avec un réalisme américain. On peut dire, si le truc ne marche pas, on l'arrêtera. Mais si ça marche, ben, on va l'arranger un peu mieux pour que ça aille mieux. En France, on n'a pas la même logique. En France, on va filer plein de subventions, comme ça les gens ils disent rien. Comme ça, voilà, on peut mettre l'étiquette bio quelque part, biogaz, comme si le gaz était bio. Le méthane, c'est un hydrocarbure comme les autres. C'est-à-dire... méthane, éthane, butane, propane, d'accord, ça c'est des hydrocarbures. Le méthane en est un. Le paradoxe là derrière, pourquoi on nous le vend? C'est pas une question que j'ai eue, mais je vais y venir dessus. Hein. Je suis désolé, hein, je fais comme le général de Gaulle, hein, c'est pas votre question, mais c'est ma réponse. D'un coup je perds le fil avec mon anecdote. Attendez, ça va revenir. Le paradoxe, on nous vend ça comme une énergie renouvelable. Mais quand on regarde bien, elle n'est pas si renouvelable que ça, parce que tout le CO2 qu'on envoie dans l'air, ben zut, la nature est en panne. Elle n'arrive plus à encaisser le CO2. C'est pour ça qu'il s'accumule dans l'atmosphère. Alors quand on nous dit que ça va faire du CO2, le CO2 va rentrer dans les plantes, et les plantes, elles vont retourner dans le sol, puis dans le méthaniseur, etc. Enfin voilà, il y a tout un circuit qui est fait comme ça. Le problème, c'est que la mécanique, elle a enrayé. Le problème, c'est que le taux de méthane, alors on parle de fuite, mais pourquoi ? Le taux de méthane dans l'air est devenu tellement grand qu'on a battu un record vieux de 800 000 ans, en 2018. En 2019, on a battu le record de 2018. En 2020, on a battu le record de 2019, et ainsi de suite. Donc on n'a jamais eu autant de méthane dans l'air. Le problème du méthane, c'est qu'il vit 15 à 20 ans dans l'atmosphère, c'est à peu près la durée d'un méthaniseur, mais il a un pouvoir de gaz à effet de serre, si on calcule sur 20 ans, qui est 89 fois. Et donc c'est pour ça que c'est devenu la priorité numéro 2 du GIEC. Parce qu'il y a trop de méthane. Et on a vu que les méthaniseurs, en moyenne sur les publications qu'on a trouvées, et dans les mesures qui ont été faites en France, c'est 4,8% de perte. C'est beaucoup trop. Et surtout, ça en génère beaucoup. Les gens vont nous dire, c'est les vaches qui font ça, elles font pareil, les vaches. Mais non, les vaches, elles en produisent bien moins qu'un méthaniseur. D'accord? Il faudrait je ne sais pas combien de vaches, je n'ai pas fait le calcul, on pourrait le faire, pour représenter un méthaniseur. Puis les méthaniseurs, ils fonctionnent 24-24. C'est pas juste après un repas, quand je vais ruminer, qu'il va émettre son méthane. Donc, déjà, le cycle du CO2, il est cassé. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour nous tous. Hein. D'accord? On a bien vu les sécheresses, etc. Mais c'est un problème pour nous tous, parce qu'on va devoir complètement changer nos habitudes. Je veux dire, moi, ça ne me réjouit pas. D'accord? J'habite à 15 km de Reims, j'ai besoin de prendre un véhicule, j'ai quasiment pas de transport en commun pour m'y rendre. Le vélo, c'est bien sympa, on est dans un endroit qui pleut. Voilà, je vais pas arriver en sueur devant les étudiants... voilà, je ne sais pas comment je vais faire, mais il va falloir faire quelque chose. Donc, ça m'ennuie, je ne sais pas comment je vais faire, il faut trouver des solutions. Et de ce que je peux constater, la méthanisation ne semble pas être une de ces solutions-là. Parce qu'elle nous coûte beaucoup d'argent. Les 32 milliards d'euros qui ont été dépassés sur les méthaniseurs, on aurait pu construire, alors vous avez vu un méthaniseur, alors si on prend un réacteur nucléaire qui fonctionne tout le temps, on voit bien que les réacteurs nucléaires ne fonctionnent pas tout le temps. Mais en gros, avec les 32 milliards d'euros versés à la en subvention à la méthanisation à ce jour, en France, on aurait pu construire, je ne sais pas, un réacteur nucléaire avec, enfin, une centrale avec plusieurs réacteurs, c'est 7 milliards. D'accord ? On aurait pu en construire 4, 5. Alors, je ne suis pas en train de vendre le nucléaire. Mais j'ai vécu à côté de centrale. Hein. Moi, je suis de la vallée du Rhône, en Ardèche, près de Montélimar. Bah, il y a le site de Cruas, Cruas-Meiss. Il y a le site de Pierre-Latte, enfin, de Bologne-Pierre-Latte. Et il y a un site de retraitement des déchets pas loin. Je n'ai jamais eu peur. D'accord ? Parce que c'est surveillé. Je connaissais des gens, d'ailleurs, qui allaient travailler à la centrale. Puis une centrale, attention, hein. Quand elle est là, elle arrose tout le monde. Hein. Vous êtes un club de sport, vous venez demander 1 000 euros, ils vous donnent 3 000 euros. Hein. Vous demandez une table de ping-pong, ils vous en donnent 4. D'accord ? Allez, essayez d'aller voir le méthaniseur du coin, on verra si c'est pareil. D'accord ? En fait, la retombée locale, par exemple d'une centrale nucléaire, je ne veux pas vendre le nucléaire. Le point de vue nucléaire, c'est qu'il y a, s'il y a un seul accident, c'est catastrophique. Il suffit d'un accident pour rayer un secteur. C'est pas parce que ça va exploser, mais ça va polluer tellement qu'on s'en prend pour des dizaines de milliers d'années. Voilà, c'est catastrophique. Donc, voilà, je ne veux pas vendre l'énergie nucléaire. En tout cas, comme vous l'avez compris, au CSNM, on ne vend pas la méthanisation pour autre chose que ce qu'elle est. Parce que la bonne méthanisation, telle que nous, on imagine, c'est l'agriculteur qui, au fond de son champ, ben, il se dit, ben, tiens, ça ne me sert à rien, je ne peux pas l'utiliser là, ça, je peux le méthaniser. Et avec l'énergie que je vais produire, ben, je vais pouvoir faire tourner cette chose-là sur mon exploitation. Ça, c'est pour nous l'image de la bonne méthanisation. Les déchets seront limités, il n'y aura quasiment pas de transport. Ça restera sur la même exploitation. S'il y a un excédent d'énergie, ben, autant pis.